Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La migration clandestine fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines, et ce, à la faveur des tragédies qui se sont succédées dans la Méditerranée, où des centaines et des centaines de personnes auraient péri en tentant coûte que coûte une aventure en Europe, notamment en Italie et en Espagne. Nous ne serions pas revenus sur ce sujet de sitôt s'il n'y avait pas eu la semaine dernière un énième naufrage dont les victimes se compteraient par centaines. Le chiffre cessant est même avancé. Sans oublier qu'une semaine avant, deux autres cas avaient été signalés et là, les chiffres étaient déjà effroyables, 450 victimes. Qu'est-ce qui se passe donc? La migration clandestine serait-elle entrée dans une nouvelle phase? Pourquoi? Pourquoi le risque de périr de façon tragique ne dissuade toujours pas les candidats à cette épreuve qu'on pourrait finalement appeler l'épreuve de la mort? Que font les pays dont sont originaires les migrants pour arrêter cette catastrophe? Que fait l'Europe pour réduire au minimum le risque de périr et pour ces jeunes à défaut de trouver une solution meilleure? Y a-t-il des Maliens parmi les centaines de victimes de ces dernières semaines? Si oui, combien sont-ils? Il y a lieu de s'interroger. Le phénomène de migration clandestine doit donner du souci à l'humanité tout entière, puisqu'il s'agit de la vie des milliers et des milliers de jeunes. Pour évoquer ce sujet si troublant, nous avons dans ce studio trois invités. Le quatrième sera au téléphone. Notre premier invité, c'est une dame, Madame Diarra Mariam Savané, du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. Boulaye Keïta, il est conseiller technique chargé des questions migratoires au ministère des Maliens de l'Extérieur. Alassane Diko, il est chargé du plaidoyer de l'Association malienne des expulsés. Et Amédi Diarra, il est le président du Haut Conseil des Maliens de France. Il est en ligne depuis Paris. Le Grand Dialogue de ce mercredi vous est présenté par Seydou Fomba.
Studio Tamani.
La traversée entre la Libye et l'Italie avait déjà fait plus de 900 morts depuis le début de l'année. 900 morts auxquels il faut ajouter les victimes de cette nouvelle tragédie qui se compte par centaines. L'année dernière, à la même période, on ne comptait qu'une cinquantaine de morts. On parlait de records en 2014 avec 3000 migrants qui avaient péri en Méditerranée. C'était déjà le double du pic de 2011. Cette année, la migration clandestine se poursuit à un rythme vertigineux puisque rien qu'au cours des 6 derniers jours, plus de 11 000 migrants ont débarqué en Italie. 700 morts le week-end dernier, selon certains témoins, 450 victimes la semaine précédente, une véritable hécatombe en Méditerranée. Va-t-on laisser cette tragédie et se poursuivre? Je crois que nous allons demander en premier lieu à Boulaye Keïta, qui est conseiller technique chargé des questions migratoires au ministère de Malien de l'Extérieur, de répondre à cette question.
Merci beaucoup, une fois de plus, pour nous avoir donné l'occasion de revenir sur un sujet brûlant qui concerne aussi bien notre pays comme l'ensemble des nations africaines aujourd'hui, et même, je dirais, au-delà. On ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas non plus fermer les yeux sur ce drame. Et je pense qu'en ce qui nous concerne au Mali, depuis un certain nombre d'années, je dirais même maintenant vraiment d'années, des campagnes de sensibilisation sont organisées sur toute l'étendue du territoire national. Mais depuis 2 ans, je pense que cette campagne de sensibilisation a pris une autre forme, où ce sont les cadres du ministère des Maliens de l'Extérieur, en compagnie avec les associations de jeunes ressourçants des localités de départ, qui organisent la campagne de sensibilisation. Donc, depuis 2 ans, au lieu d'une campagne de sensibilisation sur 1 mois, la campagne de sensibilisation est devenue une activité permanente du ministère des Maliens de l'Extérieur parce que c'est une préoccupation majeure. Et nous sommes à pied d'œuvre depuis le début de la semaine et bien avant même. Nous sommes là-dessus, mais avec ces événements qui se déroulent depuis une semaine, et je pense que nous doublons encore d'efforts. Voilà. On ne peut pas laisser ces drames continuer et dire qu'on ne peut rien faire. Nous sommes à pied d'œuvre.
Voilà. Madame Diarra Mariam Savané, vous qui êtes du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur, c'est triste nouvelle, c'est une nouvelle tragique en provenant de la Méditerranée. Qu'est-ce que ça vous dit?
Merci, monsieur le journaliste. Tout le plaisir est pour moi d'être là ce soir, une fois de plus, pour parler de la migration et surtout de la migration illégale. Comme le conseil technique a eu à le dire, c'est dommage, c'est vraiment triste ce qui se passe de l'autre côté. Nous menons une sensibilisation ardue à l'endroit des zones de départ. Mais c'est triste de voir qu'on ne voit pas l'impact jusque-là de cette sensibilisation que nous menons auprès des populations cibles. Bon, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas facile de convaincre quelqu'un qui aspire à aller à l'aventure. Mais nous sommes là-dessus, comme le conseil technique a eu à le dire. C'est tout un programme maintenant, une activité permanente que le ministère a instaurée. Le ministère, bien sûr, avec le Haut Conseil, la délégation et toutes les associations impliquées dans la gestion des questions migratoires. Je pense que on verra ce que ça va donner, mais ce qui s'est passé cette semaine, j'avoue que c'est vraiment triste.
Alassane Diko, vous êtes chargé de plaidoyer au niveau de l'association malienne des expulsés. Vous suivez de près ce qui se passe dans la mer Méditerranée?
Oui, de très près, on peut dire, de très près. Si ça peut, je peux dire que nous sommes en relation permanente avec et des volontaires. Nous sommes actifs dans des réseaux transnationaux. Donc, dans ce sens-là, il y a des volontaires italiens qui sont des associations là-bas qui travaillent auprès de la Croix-Rouge internationale dans les opérations d'accueil d'urgence, et aussi des volontaires qui travaillent à la prise de témoignages et à l'écoute des personnes dans les CEI, dans les centres d'hébergement temporaire que l'État met à la disposition. Donc, nous avons quand même des informations sur quand même certaines conditions d'arrivée et aussi certains récits sur ce qui se passe à la presse ce drame-là.
Amédi Diarra est le président du Haut Conseil des Maliens de France. Il est en ligne. Alors, Monsieur Diarra, comment est-ce que les Maliens de France ont pris ces tristes nouvelles? Qu'est-ce que ça leur a dit en France là-bas?
Merci au studio Tamani d'avoir donné l'occasion au Conseil des Maliens de France de s'exprimer. D'abord, toutes nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées de par le monde. La communauté est en émoi parce que nous avions cru que après la calmie des événements d'août 2014, que les gens ont pris conscience de ce que représente aujourd'hui la traversée de la Méditerranée. Mais ce n'est pas compté avec un peu, peut-être, l'ignorance de nos populations par rapport à ça, parce qu'il y a toute une campagne qui est orchestrée en Libye, faisant croire que la mer est calme à ce temps-là, qu'il n'y a pas de danger et que les gens peuvent embarquer. Donc aujourd'hui, nous sommes tristes, puisque même s'il n'y a qu'un Malien qui perd la vie, c'est un Malien qui perd inutilement la vie, parce que l'Eldorado ne se trouve pas forcément de ce côté de la Méditerranée.
Alors, parmi les victimes, il y a sans doute des ressortissants de l'Afrique subsaharienne. Il y a, dit-on, des Maliens. Est-ce que cela est confirmé? Nous allons demander à M. Boulaye Keïta, qui est conseiller technique chargé des questions migratoires au ministère des Maliens de l'Extérieur, de répondre à cette question.
Pour le moment, toutes les informations dont nous disposons sur ces drames de la semaine dernière, on n'a pour le moment aucune source crédible qui nous dit qu'il y a des Maliens. Mais par contre, je le dis et très clairement, qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de Maliens. Par contre, nous continuons à chercher des informations fiables et mettre à la disposition de l'opinion nationale et internationale. Notre ambassadeur en Italie a été mobilisé pour essayer de comprendre s'il y a des Maliens. Les contacts que nous avons à l'extérieur, notamment en Libye, pour le moment, on n'a pas eu d'informations sur le cas d'un seul Malien. Mais nous disons qu'il est peut-être encore très tôt, mais nous continuons à chercher la bonne information. Voilà.
Alors, Amédi Diarra, qui est donc en France, il est, je le rappelle, président du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. Dites, M. Diarra, est-ce que, à votre niveau là-bas, est-ce qu'on a signalé des cas de perte en vie humaine qui concernent des Maliens? Des victimes maliennes,
oui,
est-ce que,
oui. On a appris des cas de signalement de perte en vie humaine de Maliens. Maintenant, c'est le nombre qui reste à confirmer. Comme vous savez, les naufrages, c'est plusieurs bateaux. Il y a ceux qui se sont produits dernièrement, mais avant, il y en a eu d'autres. Et apparemment, il y aurait aussi des petits bateaux qui transportent des petits nombres de gens qui ont subi le même sort. Donc, on connaît pas le nombre, mais nous avons des informations des gens de certains villages qui ont dit que des personnes de leur village sont dans les embarcations qui ont sombré. Mais au jour d'aujourd'hui, les rescapés, ces personnes ne figurent pas parmi les rescapés.
Alors, nous avons ici Alassane Digo qui est chargé des plaidoyers de l'association malienne des expulsés. Dites, monsieur Digo, à votre niveau, au niveau de votre association, pas de nouvelles non plus par rapport à un Malien qui serait concerné par cette
Je confirme ce que dit mon frère Hamidi. Mm-hmm. Je confirme. Nous avions avant-hier le communiqué de la commandature de la marine italienne, mm-hmm, qui a déterminé quand même certaines nationalités, mais pas de nombre. Le nombre concerne ceux qui ont été survivants. Donc, je rappelle que pour le drame du dimanche, donc où il y a eu 700 et quelques disparus, il y a eu 145 rescapés. Et donc, il a été clairement dit que parmi ces 145, il y a effectivement des Maliens, des Sénégalais. Et ils ont parlé de trois nationalités quand même qui ont été clairement définies: Maliens, Sénégalais, Érythréens et Somaliens, qui sont parmi les rescapés, les 145. En ce qui concerne le deuxième drame du lundi soir au mardi, où il y a eu 300 et quelques disparus, donc là, il y a eu 18 rescapés dans un premier temps, et effectivement, dans ce lot aussi, il y aurait des Maliens. Donc, nous sommes en attente, parce que, comme je l'ai dit, la marine italienne fait des communiqués aussi, mais aussi il y a tous ces réseaux de bénévoles qui sont auprès de ces institutions d'accueil qui essayent aussi des trucs. Mais donc, le décompte macabre qui va s'installer, parce qu'on parle de disparus déjà, donc déjà, il va être assez difficile. Je pense que les recherches, comme l'a dit Hamidi, il y a eu d'autres drames avant, quelques semaines avant, donc il y a même des opérations, vastes opérations de recherche qui sont mises en place, donc qui se croisent maintenant. Donc, en tout cas, nous ne cesserons jamais d'en appeler vraiment à la responsabilité des uns et des autres concernant ce décompte macabre qui nous agresse l'esprit chaque jour. Et c'est ça la vraie réalité. Donc, et comme l'a dit aussi le conseiller du ministère, il est clair qu'il y aura des Maliens dedans, parce que les pressions migratoires au large des côtes de Maghreb, on sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes Maliens qui sont là-bas, et principalement en Libye. N'oubliez pas tout ce lot, n'est-ce pas, de rapatriés de Choucha qui étaient revenus. En ce moment, on peut parler de 30 000 personnes qui étaient revenues, mais une bonne moitié serait remontée. Sans compter ceux qui ne sont pas partis, qui sont restés. Et tous ces lots-là sont, n'est-ce pas, et on les fait miroiter que voilà, la Libye va être en reconstruction. Il y a cette idée que voilà, ils sont sur place, ils vont en profiter. Mais il y a aussi ce boulevard qui est ouvert suite à l'insécurité générale en Libye. Donc, il y a le point de les plateformes de départ en Libye deviennent une commercialisation. Ça devient une manne. Et donc, nous assistons à ces drames. Et je pense que nous ne serons pas impuissants en termes de dénoncer, mais aussi en termes d'interpeller, n'est-ce pas, les uns et les autres, c'est les décideurs politiques. Actuellement, les ministres de l'Intérieur se réunissent. Ils vont se réunir, je crois, demain ou après-demain à Bruxelles pour justement débattre spécialement de ce cas. Donc, nous sommes dans la formulation de certaines préoccupations qu'à travers nos réseaux, on fait porter jusqu'à ces instances-là pour qu'il y ait une réflexion partagée. Qu'il y ait de la complémentarité. Je pense que c'est vers là qu'il faut aller, et dans le plus bref délai.
Studio Tamani, 18h30, dans quelques secondes, nous allons marquer une courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, la migration clandestine, c'est le sujet du jour. Nous sommes en train d'en parler et cela suite quand même à de graves événements, de tristes nouvelles, des nouvelles terribles qui sont parvenues de la Méditerranée où il y a eu des cas de naufrage avec des centaines de disparus. Alors, Madame Diarra, Mariam Savané du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, on le disait tout à l'heure, puisqu'il y a des Maliens parmi les rescapés, il faut peut-être s'y préparer psychologiquement et il devrait y avoir des Maliens parmi ceux qui n'ont pas été repêchés jusqu'ici.
Mais bien sûr, les disparus, vous voulez dire? Bien sûr, il y a des Maliens. Nous avons reçu un courrier de l'ambassadeur du Mali en Italie qui nous a cité les pays concernés, dont le Mali. Les pays concernés, on commence par le Mali. Il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a même le Cameroun, il y a l'Érythrée. Il y a le Ghana, la Guinée, le Niger, etc. Donc le Mali, il y a bel et bien les Maliens dans ce lot. Maintenant, combien de Maliens? Là, il y a un point d'interrogation. C'est le nombre maintenant qui reste à déterminer. C'est le nombre qui reste à déterminer. Maintenant, quelles mesures nous allons prendre? Bon, on verra. On attend, puisqu'il faut d'abord déterminer le nombre de Maliens. En fonction de ça, les pouvoirs publics vont chercher des solutions idoines pour vraiment soit faire des funérailles ou bien informer les familles concernées. Bon, il n'est pas exclu que très souvent nos compatriotes se déplacent aussi, très souvent sans même d'identification, sans de papier. Donc il y a des cas comme ça.
Alors, des jeunes qui meurent quand même au quotidien en se jetant quasiment à la mer pour tenter une aventure européenne, d'autres qui se préparent au quotidien pour courir les mêmes risques. Comment comprendre cela? La question s'adresse en premier à Boulay Keïta, qui est conseiller technique chargé des questions migratoires au ministère des Maliens de l'Extérieur.
Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, l'afflux vers la Libye et particulièrement vers l'Italie, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faudra mettre en relief. C'est que la Libye aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'État. La situation chaotique de la Libye, les migrants sont pris vraiment en otage. Et pour certains, à tout prix, il faut quitter ce territoire-là. Il faut quitter ce territoire et partir. Et partir, on pense que la traversée, souvent, c'est l'exercice le plus facile. Alors qu'on le sait très bien, qu'en même temps que c'est un exercice difficile. De plus en plus, il y a des gens qui meurent. L'instabilité aujourd'hui que nous avons dans les États du Sahel, qui quand même a ses origines, il faut le dire très clairement, dans la crise libyenne, pousse aussi un certain nombre de gens à partir. D'autre part, on a aussi des gens, pour des raisons culturelles, et à tout prix aussi, qui essaient d'aller. Mais au-delà de tout ça, là, ce que moi je dis tout simplement, la question des migrations aujourd'hui, il ne faut pas imaginer que ça concerne les plus pauvres au monde. Ceux qui traversent le désert et qui se lancent dans l'aventure de la Méditerranée, ils payent cher. Au-delà de leur vie, c'est des ressources énormes. Et la question que je me pose, est-ce que quelqu'un qui a par exemple 5 000 euros, 6 000 euros, c'est-à-dire 2 millions, 3 millions, 4 millions au Mali, est-ce qu'il est un pauvre au Mali? Est-ce qu'il est un pauvre au Sénégal ou au Niger? Je pense que souvent, il y a dans ces lots de migrants, il y a des gens, je ne sais pas pour quelles raisons, mais ça ne se justifie pas. Rien pour rien au monde, ça se justifie qu'aujourd'hui, qu'un jeune Malien tente d'aller se faire tuer dans l'océan ou dans le désert. Moi, je dirais que c'est vrai, nous sommes pauvres, mais nous ne sommes pas aussi pauvres à ce niveau. Nous n'avons pas autant de mal vivre chez nous jusqu'à aller se tuer. C'est de faire confiance à soi-même, c'est de faire confiance aux ressources de nos territoires et c'est de faire confiance aussi aux mesures que l'État est en train de déployer aujourd'hui pour la jeunesse malienne. Je pense qu'il y a énormément d'activités aujourd'hui à l'intention de la jeunesse. Mais si on ferme les yeux sur tout ça pour dire que l'aventure, c'est la solution la plus facile et qu'on peut réussir, je pense qu'on se trompe de combat et on se trompe de projet. Et la suite, c'est l'impasse. Et la mort, c'est la fin.
Amédi Diarra, vous qui êtes donc en ligne à Paris, dites-nous, comment est-ce que vous comprenez que les jeunes quand même continuent toujours de risquer leur vie pour essayer d'atteindre coûte que coûte les causes européennes? Quelle explication avez-vous à cela?
Bon, je pense que Ablaï Keïta a dit une partie, c'est un peu l'irrationalité, puisque hier, on pouvait dire pour avoir de l'argent, c'était les familles qui envoyaient les moyens de transport. Aujourd'hui, ceux qui partent, tous, effectivement, n'ont pas les moyens de se payer leur transport, mais beaucoup ont les moyens de payer eux-mêmes leur transport. C'est une question, d'image. L'image, c'est de dire, si j'ai réussi à travailler, à économiser, je sais pas, 3 millions, 4 millions de francs CFA, quand je serai en France, je pourrai faire peut-être 10 ou, je sais pas, 50 fois plus. Et mon prestige aussi s'en trouverait élevé. Voilà une part de l'explication, parce que cette image de l'Europe où on peut s'épanouir encore plus qu'en Afrique et qui est fausse est encore dans les têtes. Ça, c'est la grande explication, parce que quand vous allez là où il y a les regroupements depuis un an, tout le flot qui est venu par le biais de l'océan, bien aujourd'hui, depuis un an, sur 100 personnes, vous n'avez pas 5 qui trouvent un emploi. Eh bien, c'est malheureusement ces mêmes gens, aujourd'hui, beaucoup regrettent, mais on va pas encore engager de l'argent pour les faire retourner. Ça, c'est le premier élément. C'est un gâchis pour les familles, parce que s'ils étaient dans les villages, ils feront des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui pouvaient leur apporter encore davantage. Le second élément, c'est que, vous savez, la communication, c'est un élément important. Alors, quand je dis communication, c'est les voies de communication. Parce qu'aujourd'hui, quitter le Mali pour arriver à Libye, c'est très simple. Puisque cette voie est simple, venir au bord de la Méditerranée pour tenter d'aller à l'autre rive, s'est trouvé simplifié à cause de ce que l'Europe a fait, la France et ses alliés ont fait en détruisant l'État libyen. S'il n'y a pas d'État, vous prenez l'exemple le Maroc. Le Maroc, où il y avait une concentration importante de gens qui viennent de l'Afrique au sud du Sahara, restaient des années et des années, ne pouvaient pas traverser. Bon, par petit lot, ils traversaient, mais parce qu'il y a un État, parce qu'il y a, etc. Aujourd'hui, la Libye, ce n'est plus un pays avec un État, et c'est devenu la proie à tout ce qui est criminel. Aujourd'hui, ce sont les criminels qui organisent l'immigration clandestine. Ils sont...
Amélie Diarra, voilà. Nous allons à présent suivre la réaction de Alassane Diko, qui est chargé de plaidoyer au niveau de l'association malienne des expulsés.
Oui, je dirais que les avis sont, on peut dire, mitigés, parce que on ne peut pas saisir réellement le fond du problème. Je m'explique, parce que d'un côté, c'est la même médaille, migration. Elle est autant éblouissante qu'affreuse. Donc, il y a cette valorisation socioculturelle des migrations dans notre bassin du Mandingue ou dans l'empire du Mali que nous transportons jusqu'à aujourd'hui pour illuminer nos sentiers de l'aventure. Jusqu'à un certain moment, on peut dire qu'il faut partir, se mouiller un peu dans cette extraterritorialité et revenir pour être un peu auréolé. Je colle cela avec l'image qu'a donnée M. Keïta, justement, de la valorisation de ceux qui reviennent, qui ont réussi et tout ça. Le mimétisme, il est quelque chose aussi de bien dirigé dans nos sociétés. Je ne sais pas si ça nous porte au préjudice, mais force est de reconnaître que aujourd'hui nous avons des centaines de jeunes africains, maliens surtout, qui perdent leur vie dans ces aventures-là. Donc où se trouvent les enjeux actuellement, sachant que le départ il est légitime et volontaire, comme l'a dit Madame Diarra, il n'y a pas un bureau où on va s'inscrire pour dire qu'on va quelque part. On a vu bien les expériences du CIGEM, Pourquoi ils partent? Pas forcément parce qu'on est pauvre, parce qu'il faut un certain pécule pour partir, comme l'a dit Amélie. Donc voilà, quand vous mettez tout ça ensemble, et avec justement, ce qu'on n'oublie pas, le chaos libyen qui ouvre un boulevard, n'est-ce pas? Mais avant ce chaos, on peut même dire que Kadhafi, même, paix à son âme, avait lancé cette menace quelques mois avant sa chute à l'Union européenne, qui demandait, à qui réclamait de fortes sommes d'argent, sinon qu'il va ouvrir les vannes. Donc, il y a cette pression migratoire qu'il faut prendre en compte. Et là, un seul pays, nous sommes maliens, nous discutons du côté malien, ok, mais même le Mali seul ne peut pas résoudre ce problème, parce que le Malien va bouger, il va aller dans un autre pays. Donc, il faut collaborer, il faut créer des synergies au niveau des États. Nous avons, M. Keïta me confirme, nous avons un instrument juridique communautaire et des outils pour essayer de dialoguer clairement avec l'Union européenne, n'est-ce pas? Donc il y a des espaces concrets, mais qui ne doivent pas seulement servir à porter des projets de développement. Parce que ces projets de développement sont sous des conditionnalités qui renforcent plutôt des côtés sécuritaires et de renforcement des capacités pour lutter contre l'immigration irrégulière. Vous avez de l'autre côté des accords qui miroitent qu'il y aura du travail légal, alors que Amédie, qui est dans la vie là-bas, vient de confirmer sur ces dernières années qu'il y a moins de 10% de personnes qui ont la chance de trouver travail. Donc nous sommes devant des enjeux, mais les tendances ont changé. Avec la crise libyenne, avec la crise malienne, les bulles ont éclaté, mais ça réoriente tout. Donc, je pense que pour une fois, malheureusement, les événements nous conduisent, mais quand même, à avoir la lucidité, mais surtout le courage, pour une fois, n'est-ce pas, de s'asseoir. Pourquoi ne pas en appeler à un nouveau conseil national sur l'immigration, pour que nous rediscutons comme on l'avait fait en 2005 avec la table ronde de Kaï, qui a lancé tout un processus de réflexion sur le code. Voilà, mais le moment est là, grave, on le dit. Je terminais simplement pour vous rappeler qu'il n'y a pas encore 4 mois, on pleurait contre 27 Maliens qui étaient essentiellement des villages concentrés dans une région, 87. Et c'est énorme. Comme le dit nos amis dans les rues de Djelibougou, et le nombre de 700 disparus, c'est tellement choquant qu'on sait que si c'était des Européens, aujourd'hui, il y aurait un tollé dans le monde entier.
Madame Diarra, voilà. Mariam Moussabane.
Bien sûr. Mais moi, je pense que la migration, il faut aller aux causes. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller? Nous disons que c'est la pauvreté, et c'est vrai. C'est vrai, mais rien ne doit pousser l'individu à aller au suicide. Parce que aller mourir en mer, là, c'est aller se suicider. Tout le monde sait que quand tu quittes la Libye, tu es entre la vie et la mort. Les migrants le savent. Ils le savent très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que malgré cette pauvreté, nous ne sommes pas aussi pauvres comme l'a dit Monsieur Keïta. Il y a des atouts. La première région est la région par excellence de zone de départ. Mais nous avons sillonné la région de Kaï au mois de décembre. Je vous avoue qu'il y a des potentialités extraordinaires pour vraiment maintenir ces jeunes-là qui aspirent à aller. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les maintenir. Ça, il le faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démanteler ce réseau. Parce que c'est tout un réseau. Du Mali jusqu'en Libye. C'est un réseau qui est formé pour vraiment soutenir ces jeunes jusque dans le bateau. Donc il faut démanteler ces réseaux, décourager les jeunes à ne plus aller au suicide. Et puis le gouvernement doit vraiment donner à ces jeunes-là du travail ou bien ce qu'il faut faire pour les maintenir. Parce que c'est bien de dire qu'il ne faut pas aller, mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez donner pour ne pas aller? Il y a un point d'interrogation. Donc, il faut tout un travail. Il faut tout un travail en amont et en aval pour que vraiment fixer les jeunes dans les zones de départ. Sinon, on a beau dire, les gens ont beau voir les bateaux chavirer, il y aura toujours les volontaires à aller à la migration. Ça, c'est indéniable. Et ce n'est pas propre au Mali. J'ai assisté au forum global sur la migration et le développement. Mais il y a de ces pays-là, on dirait que le Mali même, il y a peu de personnes qui partent.
Si vous allez au Mexique, vous allez aux États-Unis, en Amérique, il y a que des Mexicains là-bas, il y a que des Chinois. Il y a tout un quartier qui est réservé aux Chinois à New York. Là, c'est une migration. Mais nous, c'est que chez nous, ici, la migration n'est pas encore organisée. Chacun va de son côté. Arrivé là-bas, il n'y a pas de lendemain meilleur.
Madame, vous aurez l'occasion de poursuivre votre idée. Il est 18h45, nous allons observer la seconde pause.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, la migration clandestine qui coûte donc de plus en plus cher en vie humaine, à qui la faute? Est-ce qu'il n'y a pas une part quand même des responsabilités des États? Je pense que nous allons joindre Amédi Diarra, qui est le président du Haut Conseil des Maliens de France.
Alors, il y a une responsabilité de certains États. Ça, c'est évident. Je viens de dire tout à l'heure. Si le drame est aussi... les drames sont aussi nombreux, fréquents, on peut même dire permanents, c'est parce que ils viennent d'un pays qui est la Libye, qui n'a pas d'État. Et pourquoi la Libye n'a pas eu d'État? C'est parce que les Occidentaux, à commencer par la France, le président de la France des années 2012, a décidé de détruire l'État libyen pour des raisons qui lui sont propres, qui ne sont même pas l'intérêt de la France. Donc cette responsabilité incombe parfaitement à l'État français et à ses alliés pour avoir détruit la Libye.
Mais il y a l'autre aspect, monsieur Diarra, il y a l'autre aspect quand même, parce que vous voyez que si ces jeunes quittent, ils quittent quand même pour des raisons.
J'arrive. Alors,
ils quittent leur pays, oui.
Dans un pays où les gens ils pensent qu'ils n'ont pas de perspective, eh ben, les gens bougent, que ce soit des jeunes ou que ce soit d'autres populations. Le malheur est que chez nous, ce sont les jeunes, donc l'avenir du pays. Les perspectives ne sont pas réduisantes, mais à mon avis, c'est aussi une image. Parce qu'il y a 10 ans, le Mali d'aujourd'hui est différent du Mali d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, dans un village, trouver des jeunes qui ont un niveau scolaire qui leur permet d'avoir une formation, ce n'était pas nombreux. Aujourd'hui, vous avez peu de villages, en tout cas dans les régions à forte immigration. Je parle de la région de Kayes, celle que je connais le mieux. Vous avez aujourd'hui peu de villages où il n'y a pas un pan important des jeunes qui aujourd'hui tentent de venir dans l'immigration, n'ont pas été à l'école. Donc déjà, ça crée les conditions de pouvoir se former. Et une fois qu'on est formé, on peut devenir soi-même son propre entrepreneur, parce que l'État ne fait pas tout. L'État, il y a des choses qui lui incombent, obligatoirement. Ça, c'est vrai. Mais l'État n'est pas le seul à devoir trouver les moyens d'employer tous les jeunes de la République du Mali. C'est l'ensemble de toute la communauté, c'est l'État, c'est les collectivités, ce sont les familles, ce sont les jeunes eux-mêmes. Si nous ne mettons pas ça dans nos têtes, et si nous ne le disons pas, nous fuyons nos responsabilités, nous allons toujours accuser quelqu'un pour ne pas soi-même assurer ses propres devoirs. Moi, je suis d'accord avec Mme Saronet quand elle dit avoir découvert des potentialités. Aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il faut travailler au niveau de l'État. Créer aujourd'hui, parce que avoir un emploi, ça ne se décrète pas. Ça se prépare. Ça se prépare à moyen et à long terme. Nous sommes dans les urgences, c'est vrai. La situation dramatique nous amène à peut-être vouloir trouver un coupable coûte que coûte, mais il faut que nous soyons réalistes que cette question ne se décrète pas.
Amédi Diarra, nous allons... Voilà.
Une politique à court et à long terme, à moyen et à long terme, qui permette que les jeunes puissent rester enfin, beaucoup d'entre eux puissent rester, il y en aura toujours qui vont partir, mais au moins qui vont vivre de leur propre sueur.
Monsieur Diarra, nous vous retrouverons avant la fin de ce débat. Maintenant, à vous la parole, Boulay Keïta, vous qui êtes conseiller technique chargé des questions migratoires au ministère des Maliens de l'Extérieur.
Merci beaucoup, Monsieur Fomba. Par rapport à la responsabilité, moi j'ai dit tout le temps, il est très facile. Il est très facile tout le temps d'accuser l'État. C'est très simple, ça ne va pas, il y a un problème, c'est l'État. Ok, l'État c'est nous tous. Ce que je voudrais dire, moi je pense que la responsabilité aujourd'hui de la migration irrégulière, c'est tout le monde. Tout le monde, pourquoi? Je vais vous dire un exemple. Je connais quelqu'un, il y a moins d'un mois, il a perdu son frère dans la Méditerranée. Il y a moins de mois, je vous dis très honnêtement, à peu près 3 semaines. Mais il y a 2 jours, j'ai rencontré un autre frère de cette même personne qui me dit qu'il va en Libye. Et là, si les gens partent sur ces routes, personne ne dit à l'État, les gens se cassent plutôt pour aller. C'est seulement quand ça ne va pas que l'État est informé qu'il y a des problèmes. C'est le travail de l'État, c'est normal. En toute situation, l'État doit pouvoir jouer son rôle. Et c'est tout à fait normal. Mais la propre responsabilité aujourd'hui, je dirais plutôt, c'est l'ensemble des parents. Les pères, les mères, souvent les épouses. Et aussi, je vais le dire, Amédi, on se connaît très bien. Moi, je connais la France. Tous ces jeunes qui vont aujourd'hui dans l'aventure, les fonds viennent de la France, en majorité. Les revenus, ce sont les parents qui sont là-bas qui les envoient de l'argent. Souvent, c'est des jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu 50 000. Mais c'est des millions qui sont envoyés à ces jeunes et qui partent dans ces conditions. Donc moi, l'idée, c'est de dire que nos parents qui sont aussi de l'autre côté, franchement, il faut changer de méthode de travail. La France d'aujourd'hui n'est pas la France des années 80. La France d'aujourd'hui n'est pas la France même des années 2000. Les choses ont évolué. Tous les pays connaissent aujourd'hui des difficultés économiques. Et l'insertion devient difficile pour les personnes vulnérables, qui n'ont pas de qualification, aucune formation. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Autant il y a la responsabilité des États européens, parce que les conventions internationales, les traités internationaux, quand même oblige les États à secourir les personnes en situation de détresse. Mais là, de plus en plus, on se rend compte que souvent, les gens meurent même à l'arrivée. Là, il y a une vraie responsabilité. Nous, c'est vrai, on a des problèmes dans nos pays. Mais ce que moi, j'ai dit aux jeunes, j'ai dit par exemple, nous, en ce qui nous concerne directement le ministère des Maliens de l'Extérieur, au mois de septembre 2014, le gouvernement a adopté la politique nationale de migration, qui est un ambitieux projet, qui est censé prendre en compte tous les aspects de la migration, dont des projets de réinsertion à la base. Par contre, je ne suis pas d'accord avec M. Dikou. S'il dit que les projets de développement à la base ne doivent pas s'inscrire dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Vous discutez avec des jeunes, c'est parce qu'on n'a rien. Mais c'est souvent parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont quelque chose dans leur territoire. Moi, j'ai dit, une fois que les jeunes ont la conscience qu'il y a des ressources à pouvoir exploiter, et que l'action de l'État, en ce qui nous concerne aujourd'hui, le ministère des Maliens de l'Extérieur, la politique nationale de la migration, pouvait aider ces jeunes, je pense qu'on peut changer énormément de choses. Ils sont préoccupés par la gestion de leurs frontières. Mais nous sommes préoccupés plutôt par la vie de nos concitoyens. On est préoccupés par ça. Et la solution pour nous, c'est quoi? C'est de travailler les consciences déjà des gens, et en même temps, venir par ce biais-là, accompagner les jeunes qui sont engagés, qui veulent rester sur place. On ne va pas financer ces jeunes à qui vous allez donner 2 millions, 3 millions, il va se faire tuer ou bien il va dire « Ok, c'est bon, j'ai le transport, je m'en vais ». Nous, l'ambition, c'est de la gestion des migrations, c'est de diminuer ce nombre de drames liés. S'ils sont préoccupés par les frontières, nous sommes préoccupés par la vie de nos concitoyens.
Alassane, nous travaillons là-dessus. Alassane Diko, de l'association malienne des expulsés.
Oui, je dirais d'ores et déjà quand même que ce n'est pas le migrant, ce n'est pas le responsable. Et il est clair que quand d'abord il y a ce droit universel qui est bien un droit fondamental de tout être humain à bouger, à circuler. Donc il peut y avoir divers facteurs, mais on ne va pas porter, n'est-ce pas, la charge des responsabilités sur le dos du migrant, parce que dans tous les cas c'est lui qui meurt, qui doit prendre des dispositions. Les responsabilités de l'État sont assez claires et évidentes dans la mesure où c'est l'État, l'administration étatique qui gère le mouvement des personnes. Et donc on doit déjà, quand on parle de clandestinité, d'irrégularité, Non, je dis qu'on mette les mots à leur place. Parlons plutôt de mise en clandestinité et de mise en irrégularité. Le migrant, quel papier on lui demande ? Et c'est l'administration d'accueil qui doit donner le papier et qui refuse de donner le papier et donc qui met en situation de vulnérabilité la personne en situation d'immigration. Et quand on parle de migration irrégulière, qu'est-ce que ça veut dire ? À part ce qu'on veut lui donner comme connotation. Qui est irrégulier ? Parce qu'on donne des conditions d'entrée qui ne sont pas, on peut dire, qui sont légitimées par, n'est-ce pas, des objectifs politiques. Donc, pour parler clairement, je dirais à M. Keïta que moi, je ne suis pas d'accord avec son désaccord avec moi, parce qu'il est évident, d'abord, qu'une grande majorité de la population malienne a dénoncer l'accord de réadmission justement parce que ces conditionnalités-là existent non seulement en termes chiffrés sur des possibilités d'entrée pour certains nombres de Maliens en France, ce qui est déjà une violation, n'est-ce pas, du droit fondamental à toute personne d'aller. On ne va pas donner de quota. Et dans l'autre cas, il est bien clair que depuis le 9e FED, hein, je demanderai à M. Keïta de revoir un peu les choses, depuis le 9e FED, le 10e, 11e, jusqu'on est dans le livre du 12e FED, il est bien clair que les conditionnalités de gestion des migrations et de sécurisation des frontières et de renforcement des capacités à la détection, n'est-ce pas, des faux documents et des capacités de surveillance des frontières font partie et même dégraissé. Il faut dire la vérité. Madame Ce Dira. Sont des conditionnalités qui ont dégraissé même les lignes des services sociaux qui sont l'eau, la santé, et l'éducation. Madame Il faut Dira, bien regarder Mariam, le 9e FED et le 10e FED.
Voilà, Madame Dira, Mariam Savané du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur.
Oui, Monsieur Duco, je suis désolé. Il est vrai que nous voulons aller à l'extérieur. C'est pour un bien-être. Mais chaque pays a sa politique de gestion de ses frontières. Chaque pays. Même au Mali ici, lorsque vous venez à l'aéroport sans le passeport malien, vous êtes soumis à certaines conditions avant qu'on vous laisse rentrer. Donc, chaque pays a ses conditions d'entrée à la frontière. Il est vrai que l'obtention des visas est difficile. Mais tout ça, c'est pour limiter les déplacements des hommes. Parce que maintenant, la migration ne doit pas se faire comme avant. Il est clair. Ça ne peut pas se faire comme avant. Avant, c'était comment ? On se lève, on se prépare, on va dans un autre pays, on a du boulot, on travaille, on s'installe, ok, c'est bon. Mais maintenant, avec le développement et tout ce qui s'ensuit, les gens n'ont même plus assez d'espace dans leur propre pays. Ils sont confrontés à beaucoup de problèmes, dont le chômage. Donc, on ne peut pas laisser le flux migratoire envahir le pays. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, ce que l'État doit faire, c'est de mettre une bonne politique en place pour fixer les gens qui veulent aller à la migration. C'est ce que l'État malien même doit faire. La migration n'est pas propre au Mali. Mais je reviens sur le cas de Kaï. Si l'État mettait le minimum sur la région de Kaï, je vous avoue qu'il y aura moins de départs. C'est clair.
Voilà, je crois qu'on aura l'occasion un autre jour de prolonger ces débats, mais nous allons demander juste en une minute à Amedi Diarra, je pense qu'il a au moins un petit message adressé à la jeunesse. Juste en une minute. Hein.
Oui, j'ai deux messages. Le premier, c'est d'abord à l'État, aux États occidentaux. Là où je suis d'accord avec Dico, c'est de dire, c'est qu'aujourd'hui, les États occidentaux font exprès pour laisser les gens mourir en mer. Pendant qu'on est allé en Syrie pour dire que le président syrien massacre son pays et que ce n'est pas démocratique, on laisse les gens mourir, on les empêche de débarquer sur les côtes. Il n'y a que l'Italie seule qui est laissée face à ce drame, qui se dépatouille, et je trouve que ce n'est pas normal. C'est une responsabilité morale condamnable et une responsabilité politique condamnable. Ce que je dis à la jeunesse malienne, le Mali aujourd'hui a beaucoup de potentialités. Vous pouvez venir en Europe, jouir des délices de l'Europe lorsque vous êtes
bien préparé.
Voilà, voilà monsieur Diarra, je crois que votre message est compris. Nous aurons l'occasion de vous retrouver pour l'occasion de notre débat. C'est l'heure de mettre fin à cette émission Le Grand Dialogue de ce mercredi 22 avril 2015. Le sujet du jour, c'était les drames causés par la migration clandestine. Pour en parler, nous avons reçu 4 invités. Il s'agissait de Madame Diarra, Mariam Sabani du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur, Boulaye Keïta, conseiller technique chargé des questions migratoires au ministère des Maliens de l'Extérieur, Alassane Diko, chargé du plaidoyer de l'Association malienne des expulsés, et Amédi Diarra, le président du Haut Conseil des Maliens de France. Le débat vous a été présenté par Seydou Fomba aux opérations techniques. Nous vous direz à la régie vidéo. Je crois que nous avons Mamadou Saloum Diora à la réalisation, Ousmane Djadje Touré. On se retrouve demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou de Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.